Alors, il y a sur mon cahier marqué d'abord qu'on doit faire un point sur la situation actuelle. D'accord ? La situation actuelle, vous savez que, messieurs, nous sommes en pleine guerre, que tous les jours, on se reçoit des dizaines et presque des centaines de missiles. Et Baruch HaShem, il y a beaucoup de miracles. Tous les jours, des miracles extraordinaires. Les soldats font la guerre et ils racontent que Baruch HaShem, HaShem, il est avec eux et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles. Donc, quel miracle, mais il y a aussi le revers du miracle, le revers de la médaille. D'accord ? Et donc, il y a un petit point ici qu'on a besoin d'expliquer, de développer, qui est extrêmement important par rapport à tous les miracles que Hakadosh Baruch Hu nous fait. Alors, pour expliquer ça, j'ai trouvé un très très joli mahamar de Rav Eliyahu Lopian. D'accord ? Donc, il va nous expliquer plusieurs notions. Alors, la première chose, pour commencer. Rabbi Eliyahu Lopian nous rapporte la Gemara dans Maseret Ktuvot. La Gemara elle nous raconte Tadou Rabbanan Maase be Rabban Yochanan ben Zakkai. D'accord, on raconte une anecdote avec Rabban Yochanan ben Zakkai. Qui était Rabban Yochanan ben Zakkai? C'était le Rav qui a vécu la destruction du deuxième Beth Amikdash. D'accord, vous savez que au moment de la destruction, juste avant, il y a un rabbin qui est sorti donc de la ville pour aller négocier avec le César. Ce rabbin là c'était qui? C'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors là, on parle de quoi? On parle que le Beth Amikdash a été détruit. Et donc, le Ram Israël était dans une... quel mot en français on pourrait dire? Dans une pagaille pas possible. Et donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il raconte qu'un jour, il était... Enfin, la Gemara nous raconte qu'un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il chevauchait un... Ayarochev al-Khamor. Ve'ayotse mirushalayim, il sortit de Jérusalem. Ve'ayot al-midav ma'alachim acharav. Et ses élèves, ils allaient avec lui, après lui. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ra Riva. C'est quoi une Riva? Une Ehara. Ils ont vu une jeune fille. Shaita melaketet seorim ben glale beimdan shel aravim. Elle était en train de ramasser des grains d'orge dans une bouse de vache, enfin une bouse d'un animal qui appartenait là-bas un arabe de là-bas. Et lorsque le kevan shirata auto nitatfa besara, lorsqu'elle l'a vu, qu'est-ce qu'elle a fait la jeune fille? Elle s'est cachée, elle a cassé son visage. Elle s'approchait du Rav et lui a dit: Rav, Parnasseni, donne-moi à manger, donne-moi quelque chose à manger. Amarla, il lui a dit: Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui a dit: Mirat, qui tu es toi? Il lui a dit: Moi, je suis la fille de Nagdimon ben Gurion. Vous savez, c'est qui Nagdimon ben Gurion? Lorsque, Bezrat Hashem, là, dans quelques jours, vous allez étudier la Gemara dans Maseret Gittin, où là-bas on va raconter le siège de Jérusalem, la Gemara va nous raconter qu'à Jérusalem, à l'époque, il y avait trois riches. Qui étaient-ils? Un, il s'appelait Kalba Savoie. Un, il s'appelait Nagdimon Gorion. Et l'un, il s'appelait Ben Tzitzit Akeset. C'était trois riches qui étaient capables de financer, de donner à manger à Jérusalem pendant 20 ans, presque 20 ans. Donc, on était le Matsor, comment on dit en français Matsor, le siège que les Romains ont fait sur Jérusalem. En réalité, c'était un siège qu'ils auraient pu largement supporter. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque là-bas? Donc, les Birionim, les gens, ouais, ceux qui voulaient se battre contre les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé toutes les réserves. Et donc, à cause de ça, il y a une grande famine à Jérusalem, et etc. Vous connaissez la suite de l'histoire. Jérusalem s'est fait conquérir. Il y a eu plein de massacres, etc., etc. En tout cas, un des trois riches là-bas, c'était qui? Nagdimon ben Gurion. Là-bas, Stam Lagmara nous raconte que sa fille à lui, Nagdimon ben Gurion, elle était tellement délicate et tellement chère qu'elle n'a jamais posé son pied par terre. Jamais le poser son pied par terre. En tout cas. Quand il a vu donc cette fille-là, qui était une fille d'un homme très riche, à Marla, il lui a dit: Biti, Mamon, Shelbet Avicha, Echan, où est-ce qu'il est l'argent de ton père? Toute la richesse que ton père il avait, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Matli, Matla, Birushalayim, on dit, il y a une parabole qu'on dit à Jérusalem, on dit, il y a une fameuse expression à Jérusalem, c'est quoi? Melar Mamon Haser, Vimrele Chased. On dit Melar Mamon Haser. Le Melar, c'est quoi le Melar? C'est le sel. Le sel, il a une particularité, c'est lorsque vous avez besoin de conserver quelque chose, dans quoi vous le mettez dans le sel. Par exemple, prenez de la viande. La viande, c'est quelque chose qui pourrit très rapidement. Ou le poisson, c'est quelque chose que un jour, deux jours, trois jours, si tu l'as pas à manger, il pourrit très rapidement. Le sel, c'est magique. Tu prends ce poisson-là, ou tu le mets, ou tu prends cette viande-là, tu la mets dans le sel, et ça la conserve. Et tu peux la garder comme ça pendant des mois et des mois. Donc le sel, il a la particularité de conserver des choses. Et dit le mammon aussi, il a un sel. C'est quoi le sel du mammon? C'est le chasser. C'est quoi le chasser? C'est tout ce que tu mets de côté. Là-bas, ils expliquent les mefarshim, c'est quoi tout ce que tu mets de côté? Tout ce que tu donnes à la tzedaka, alors ce que tu mets de côté, ça a la particularité de garder ton mammon. Il y a une autre qui dit par le chassé, c'est le chesed. Toute la bienfaisance que tu fais avec ton argent, eh ben cette bienfaisance, elle a le pouvoir de garder ton argent. Et qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, mon père, c'était un homme très riche, mais il ne faisait pas de, il faisait pas de chesed. Et après, il demande, et l'argent de ton beau-père? Ton beau-père aussi, c'est un homme très riche, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a dit, non, l'argent de mon beau-père et l'argent de mon père, c'est ce que j'ai reçu, tout est mélangé. Et donc, comme les choses sont mélangées, j'ai tout perdu. On a tout perdu. Bon, après, la Gemara, elle demande ici. Après, elle lui dit, est-ce que tu te souviens, la Ktouva, la jeune fille, elle dit à Orav, est-ce que tu te rappelles la Ktouva, c'est la Ktouva, on est en ce moment en Ktouvot. La Ktouva que tu avais fait, que tu avais écrit pendant mon mariage, oui, je me rappelle, c'était là-bas des millions de dinars et zahav, de 10 millions de dinars de d'or. D'accord, la Gemara, elle continue, je ne vais pas voir toute la Gemara. En tout cas, après, la Gemara, Stam, elle va poser la question. Elle va dire... Non, il va dire quelque chose, je vais le revenir dans un instant. Stam, la Gemara, elle demande, mais dit, mais comment tu dis que Nadia Ben-Gourion, il ne faisait pas de tzedaka? Là-bas, elle raconte que Nadia Ben-Gourion, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un habit comme ça qui était plié. Et derrière cet habit-là, il mettait de l'argent. Et il marchait dans les rues, et un pauvre qui avait besoin d'argent, il venait, il puisait directement dans son... Comme ça, sans que le Nadiam Ben-Gourion, il se fasse voir. Sans qu'il voie à qui... Non, pardon, le contexte. Sans qu'il voie à qui il donne. Donc on voit que oui, il faisait du chesed. Seulement, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui, c'est vrai qu'il faisait du chesed, mais il ne faisait pas en fonction des moyens qu'il avait. Le chesed, c'est proportionnel. C'est-à-dire, si tu as de l'argent, tu dois faire du chesed. Mais si tu as beaucoup d'argent, tu dois faire beaucoup de chesed. D'accord? Bien qu'hier, on dit qu'il y a des chiourim, des quantités, des pourcentages, 10%, 20%. Il faut savoir que quand un homme il est immensément riche, alors pas forcément s'applique à lui cette halakha de donner 10 ou 20%. Des fois, on doit donner plus. Vous connaissez une histoire connue, que Rav Zilberstein y raconte, qu'il dit qu'il y avait des frères aux États-Unis, qui avaient une grosse société, des gens très très riches, et qui avaient l'habitude de donner beaucoup d'argent. Eux, comment ils faisaient? Tous les bénéfices qu'ils faisaient, il y avait un comptable spécial qui était là pour calculer les bénéfices et pour prélever 20%. Et le mettre dans un compte spécial. Quand ils avaient besoin de donner de l'argent à une œuvre, alors ils prenaient de cet argent-là. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu avec une œuvre de charité à proposer. Et donc, ils ont appelé le comptable. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut lui donner aujourd'hui? Le comptable, il n'y a plus rien. Il n'y a rien dans la caisse spéciale pour le donner. Il n'y a rien, elle est vide. Alors, les deux frères, ils se sont dit, bon, on a de l'argent, on peut donner. Après, l'autre, il s'est dit, oui, mais attends, mais si on donne plus que... On doit donner, alors peut-être que c'est pas bien, peut-être on n'a pas le droit. D'accord? Il y a marqué que celui qui met basbet, celui qui donne la zdakado, va donner plus qu'un cinquième. Alors les deux frères, ils étaient embêtés. Ils disent, est-ce qu'on peut donner? Est-ce qu'on peut pas donner? On a de l'argent, on a les moyens de donner largement. Il y a un des deux frères, il a dit, écoute, moi je voyage cette semaine en Israël. J'irai voir Rav Eliashiv, je poserai la question. Le Rav Eliashiv, ce soir, c'est là, il est là du Rav Eliashiv. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Rav Eliashiv en Israël. Il a posé la question. Il a dit, voilà, tout le keren, donc tout le compte là, de dont il est vide, est-ce qu'on peut donner? Il a marqué qu'on n'a pas donné plus qu'un cinquième. Et le Rav Eliashiv lui a répondu, il dit, après 120 ans, lorsqu'on t'accusera d'avoir donné plus qu'un cinquième, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'appeler à ce moment-là et moi je viendrai te défendre. Il dit, vas-y, donne, tu peux continuer à donner. On va fermer la parenthèse. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit là-bas, la Gemara, que c'est la raison pour laquelle Nadia Ben-Gourion a perdu tout son argent. En tout cas, la Gemara ici, elle nous raconte qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai quand il a vu ça, quand il a vu cette pauvre jeune fille, enfin cette riche jeune fille qui est devenue pauvre jeune fille en venir à... Après la question. À venir à glaner, enfin glaner, je ne sais pas c'est le mot, prendre des grains d'orge, c'est bidon l'orge, dans de la bouche de vache, c'est terrible de manger ça. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Ashrechem Israël. Heureux soyez-vous Israël. Pourquoi? Bezman shi'osim retzono shel makom. En kol auma, kol auma velashon shel ba'em. Lorsque vous respectez la parole d'Hachem, alors il n'y a aucune nation qui peut contre vous. Ah, extraordinaire. Ou bezman shi'en osim retzono shel makom. Par contre, lorsque vous ne faites pas la volonté d'Hachem, Mosrim beyad auma, on vous donne. Vous êtes... jeté en pâture comme ça, hein. D'accord? Comme ça, la Gemara, elle nous dit. Maintenant, le Baal HaKedah, c'est un Mefaresh, il pose la question sur ce qui est marqué ici. Il dit, je comprends pas. Sur le positif, je comprends. Ce qu'il a dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ashrechem, heureux soyez-vous, peuple juif, bravo. Alors sur le positif, Je comprends qu'il dit heureux. Heureux soyez que lorsque vous faites la volonté d'Hachem, alors, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a aucune nation qui peut lutter contre vous. Mais sur le négatif, qu'est-ce qu'il dit à Shrechem? On pose la question. Ah, soyez heureux que lorsque vous tombez très 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 bas. Ah, pshat, ça veut dire ici. Ouais, comprenez la question ou pas? Alors, pour comprendre qu'est-ce que ça signifie, on va faire un autre détour encore. Et le détour, c'est dans la Gemara de dans Brachot. C'est la Gemara que j'ai étudiée, la première Gemara que j'ai étudiée. Là-bas, la Gemara dans Brachot, elle pose une question sur David Améler. Donc la Gemara, ici, elle nous raconte Mizmor le David, Bebachom Dav Shalom. Il y a un Tehilim qui s'appelle, enfin qui commence par Mizmor le David. C'est quoi Mizmor le David? Mizmor, comme Mizmor? Mizmor, c'est les louanges, les chants de David. Donc quand est-ce qu'on chante en général? C'est quand on est heureux, on dit quelque chose de. Quand on est malheureux, on ne dit pas Mizmor, on dit quoi? On dit Kina. Kina, c'est lamentation. Donc il y a Mizmor, il y a Kina. Et donc c'est quoi la sur quoi David il va chanter? Il a chanté Bevarochom, il était Avshalom lorsqu'il a fui devant Avshalom. Qui était Avshalom? Vous connaissez l'histoire d'Avshalom et de David Améler? Non, si vous la connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a marqué ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a David Améler, donc il a eu plusieurs enfants. D'accord? Un de ses fils, son plus grand fils, on va dire, avant que Shlomo, le petit Shlomo qui était petit encore à l'époque, va se dévoiler, va devenir qui il était, son grand fils, son fils important, c'était Avshalom. Avshalom, c'était un homme très très important. Là-bas, dans le Psukim, on voit que c'était un homme qui s'est assis. C'était l'aîné, je crois que c'est l'aîné de David. Je ne sais pas s'il a eu une fille avant. Je crois que oui, c'était l'aîné. Donc il était assis à la porte de la ville. Quand les gens avaient une question, ils venaient lui poser. Donc c'était un Talmid Chacham, un grand érudit. C'était un homme important. Lorsqu'il marchait dans la rue, il y avait 50 coureurs qui marchaient devant lui. Donc c'est comme des motards. Il y avait des motards, 50 motards, il y avait, qui marchaient devant lui. Donc c'était un monsieur très très important. Et qu'est-ce qu'il va faire Avshalom? Un jour, il va se révolter contre son père. Pourquoi est-ce qu'Avshalom va se révolter contre son père? Qu'est-ce qui va le pousser à faire ça? Alors, au niveau naturel, entre guillemets naturel, Avshalom va vouloir prendre la royauté. Il a dit, mon père a suffisamment régné, à moi de devenir roi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle un putsch, un coup d'état. Il va vouloir renverser son père. Il va rentrer en guerre contre son père. Il va faire la guerre. À tel point que David, devant la puissance de Avshalom, il va devoir fuir. Il va devoir fuir. Et donc, lorsque David va fuir, il va écrire un mizmor, un chant de joie. Alors là-bas, il demande, il m'étend, tu es en train de fuir devant ton fils, qui est en train de maintenant te poursuivre pour te tuer, pour te prendre ton trône, et toi tu dis un mizmor. Alors qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Elle te dit, oui, tu aurais dû dire Kina, lamentation, pas mizmor. Amar Rabbi Shimon ben Abishalom, Machal Ema d'Abardomé, parabole à quoi la chose elle ressemble, à un homme qui a reçu un shtachov, on va dire, je traduis autrement, c'est pas exactement comme ça que c'est traduit, mais il a reçu une convocation au tribunal où il a reçu une amende à payer. Mais on lui a pas dit le chiffre, on ne pas dit ce que c'est. Alors tant qu'il ne sait pas ce que c'est, ou il ne sait pas pourquoi il a été convoqué, il ne sait pas ce qui lui arrive, alors il est angoissé, il est plein d'angoisse. Jusqu'au moment où il va réellement passer devant le tribunal, et là on va lui dire ce qui va lui arriver, et là il est rassuré. D'accord? Donc de quoi on parle ici? Dit David Améler, Hachem, après la faute, David il avait fauté avec Bathsheba. Vous connaissez l'histoire de Bathsheba? On va tout raconter, si on va pas se sortir, on va pas le temps de raconter. En tout cas, Bathsheba, David Améler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer mourir un de ses fidèles soldats, qui s'appelle Uri Achiti, pour lui prendre sa femme. Ça, on va lui reprocher à David Améler d'avoir fait une chose pareille. Nathan va venir, le prophète Nathan va venir lui faire remontrance. Et il va lui faire donc toute une série de remontrances très intéressantes à raconter aussi à l'occasion. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire Nathan? Ineni meki malecha ra'am ibetecha. Parce que tu as fait une telle faute. Parce que tu as tué Uri Achiti. Alors sache, ineni mekim, je vais susciter sur toi le mal dans ta maison. D'accord? Donc lorsque David Améler, alors la suite de l'histoire, c'est que David va regretter. Et parce qu'il va regretter, il va dire Khatati Hachem, j'ai péché envers Hachem. Alors Hachem va le pardonner, mais va entièrement pardonner. L'enfant qui va naître de comment ça s'appelle, Bathsheba avec David Améler va mourir. Lui, David, ne va pas mourir. Il aurait dû mourir, il ne va pas mourir. Mais malgré tout, cette malédiction-là, elle va rester. Et donc David, pendant ces années-là, il est angoissé. Il dit qu'il sait qu'il doit lui tomber quelque chose sur la tête. Et donc il était très atsouf, il était très préoccupé. Pourquoi il était préoccupé? Il dit, qu'est-ce que Hachem il va m'envoyer? Amar, Shema, Eved, Omamzer, peut-être que Hachem il va m'envoyer un Eved, un esclave, me frapper, ou bien un Mamzer, un enfant illégitime. D'accord? C'était quoi la particularité de ces gens-là? C'était des gens cruels, des gens qui n'avaient pas de pitié, des gens qui n'avaient pas de midot, qui n'avaient pas de caractère, c'était pas bien plus, des gens mauvais, quoi. Et donc il avait très très peur. Lorsqu'il a entendu, il a vu que c'était ni un Eved, ni un Mamzer, mais c'était son fils Avishalom, Avshalom. Il a dit, ah, si c'est Avshalom, ça va, Baruch Hashem. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chanter. Oui. Ou Samar Mishumachi Amar Mizmor. Il était joyeux quand il a entendu que c'était Avshalom qui est venu contre lui. Et donc c'est pour ça qu'il a chanté. Maintenant, Stam, entre parenthèses, la Gemara, là-bas, le Marcha, sur cette Gemara-là, il pose la question, il dit, mais attends. On comprend pas. Là-bas, il y a marqué dans les psukim, je vous amène le pasuk ici. Vous connaissez l'histoire de Achitophel? Vous savez Achitophel, non? Ah, ça c'est une belle histoire, ça. C'est très terrible. Moi, je vous la raconte vite fait pour comprendre ce qui va se passer. Donc, David Ameler va fuir Jérusalem avec toute sa cour. Avec, je sais pas, avec toutes ses femmes, avec une ou deux de ses femmes, j'en veux plus, faut revenir ici. Et avec ses soldats, il va fuir Jérusalem, il va fuir vite. Et donc, Avshalom va s'installer à Jérusalem, va se mettre avec Avshalom, un Cohen, je me rappelle plus lequel c'est, je m'excuse, c'est pas grave. Et toutes sortes de gens qui haïssaient David vont se mettre avec Avshalom. D'accord? Donc, David n'est plus dans la ville. Il a fui, il est avec quelques soldats. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là-bas, il y avait un conseiller. Ce conseiller s'appelait Achitophel. Achitophel, là-bas, le pasouk qui dit que tout ce qu'il disait Achitophel, ça se réalisait. C'était un homme d'une sagesse tellement grande, d'une intelligence tellement puissante, que le conseil qu'il te donnait, c'était un truc qui se réalisait. Et donc, David Ameler, il va avoir peur d'une seule chose. De quoi il va avoir peur? Des conseils d'Achitophel. Il a dit, comment est-ce que je vais déjouer les conseils d'Achitophel? Alors, en réalité, entre-temps, il y a eu un autre épisode que je vous raconte très rapidement. C'est que lorsque David Ameler, il va être dans un certain endroit, je ne sais plus où il va être, il y a un homme qui va venir vers lui. Il va le reconnaître, et ici, qui va voir, c'était qui? C'était Hushai Aharki. Hushai, je crois qu'il s'appelait Hushai Aharki. Et Hushai Aharki, David, il va le voir, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je suis venu avec toi. Il dit, quoi, t'es pas parti avec mon fils? Il dit, non, c'est toi le roi, moi je reste avec toi. Il dit, je veux participer, je veux rester avec toi. David Ameler, il dit, écoute, j'ai une idée. Tu veux me rendre service? Tu veux m'aider? Alors reste pas avec moi. Va chez Avshalom, là-bas. Va lui dire que tu es fidèle à Avshalom. Et ce que je veux de toi, c'est que tu vas déjouer les conseils d'Achitophel. Essaye de trouver un moyen de déjouer ses conseils. Parce que la pire des choses qui peut m'arriver, c'est que tu lui donnes un conseil. Son conseil à lui, il est plus dangereux que tout. Donc qu'est-ce qu'il va faire Hushai Aharki, il va partir donc voir Avshalom. Avshalom, il va lui dire, ouais, vive le roi. Il dit, quoi, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas parti avec mon père? Il dit, mais non, ma pitonne, ton père, c'est du passé. C'est toi le nouveau roi, c'est toi qui es un homme important. C'est toi que je veux servir. Il dit, ah, super, sympa. Bon, ok, viens. Et donc il reste donc avec Avshalom. Et donc l'histoire revient. Lorsque donc David Ameler a fui, Avshalom, il demande, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Mon père est encore vivant, il est avec ses guerriers, qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit qu'on appelle Achitophel, amenez Achitophel. Achitophel, il vient, il dit, ah, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, écoute mon conseil, viens, on va prendre 12 000 hommes, je crois que c'était 12 000, ouais. On va prendre 12 000 hommes et on va partir en guerre contre David. David maintenant, il est fatigué, il est harassé, ses hommes ils sont fatigués. On va venir là, une bande comme ça, et on va le frapper, on va le tuer. Ouais, très rapidement. Fais-moi confiance. Il dit, ah ouais, c'est un bon conseil ce que tu me dis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, attends, je dois quand même demander à Hushai, à Irki, c'est quoi son conseil? Il dit, appelez Hushai, qu'est-ce qu'il me conseille, lui? T'as entendu le conseil d'Achitophel? Il a dit, conseil d'Achitophel, je l'entends, mais ici, il n'est pas bon. Le conseil qu'il donne ici, c'est valable pour un petit soldat, un petit roi bidon. Mais pas pour David Ameler. David Ameler et ses hommes, c'est des guerriers, c'est des vaillants. Ils ont peur de rien. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas partir avec tes 12 000 hommes. Ils vont commencer à se battre contre eux. Et qu'est-ce qui va se passer? David, il va se... comment on dit là-bas l'expression? C'est un lion dans sa... Un lion qui est harassé. Un lion qui est à la... Qui est dans une impasse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se déchaîne. Il va se déchaîner. Il va se battre comme 10 bonhommes. Et donc il va taper tes soldats. Tes soldats, ils vont voir qu'ils sont en train de se faire éclater par David et ses soldats. Ils vont avoir très très peur. Ils vont tous partir en déroute et tu vas te retrouver bête. Et donc, c'est pas un bon conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tout le peuple, tous les soldats que tu as, ils aillent en guerre. Alors en quoi ce conseil-là, il est mieux? Je sais pas exactement. Et il faut aussi une autre chose. Il faut que toi, Shalom, tu partes en guerre avec eux. Et là, à ce moment-là, le verset, il dit, ah, tout le monde dit, ah oui, bravo, le conseil de Hushaï, il est beaucoup mieux que celui d'Achitophel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc toute son armée, il va partir en guerre. Entre-temps, Hushaï, il va envoyer un message à David Ameler, il va lui raconter ce qui va se passer pour que David prenne ses mesures. Et l'histoire, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Il y a deux suites de l'histoire. La première suite, c'est que Achitophel, il a vu qu'on n'a pas écouté son conseil, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Achitophel, c'est un des quatre personnages qu'on dit sur lui, il n'a pas le droit de part mon futur. Il avait la haine contre David Ameler. Et la deuxième chose, c'est que Avshalom va partir donc en guerre. À un moment, il va se faire poursuivre par des soldats. Et lui, il avait une grande chevelure comme ça. Une grande, hein. Et sa chevelure va s'accrocher à un arbre, il va se retrouver pendu. Et donc là, il est facilement tuable. Les soldats vont voir le fils du roi, que David Ameler, il avait dit, on fait la guerre, mais attention à celui qui touche un cheveu de mon fils. Donc lorsque les soldats ils l'ont vu comme ça pendre, ils n'ont pas osé le tuer. Ils ont appelé le chef de l'armée, c'est qui le chef de l'armée? Yoav. Là, Yoav l'a trouvé Avshalom. Ils l'ont trouvé, ils le voient vivant, ils disent, pourquoi vous ne voulez pas tuer? Tiens, là, le roi il a dit, oh, il va voir si on touche un cheveu de son fils. Il dit, ma pitom, c'est ça, il le prend, il le plante et il le tue. Bon, vous voulez la suite de l'histoire, vous lisez, il y a beaucoup à raconter, c'est très très beau le Tanakh. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on ramène ça? On voit ici, et c'est la question que les Mépharchim y posent. Il dit, mais comment tu vois que Avshalom c'est mieux qu'un Eved ou un Mamzer? On voit que Avshalom lui, il voulait tuer son père, il a tout fait pour aller tuer son père. Le Maharsha là-bas, il explique que David Ameler, comme ça il croyait. David, il croyait que son fils, il aurait pitié de lui. Si, il s'est trompé, David Ameler. Ah, bah, presque, il dit Maharsha. Enfin, attention de dire le mot comme ça sur David Ameler. Mais au niveau du pshat pashut, David, il s'est trompé. Et peut-être on peut comprendre pourquoi il n'a pas voulu le tuer, parce qu'il aurait dit, de la même façon que lui, il ne m'aurait pas tué, moi pourquoi je vais le tuer? En tout cas, ça, comme ça le Maharsha il explique. Mais il y a un autre pirouche, et c'est ce pirouche-là qui nous intéresse, c'est le pirouche du Rabbi Yonatan Eibeshitz. Comment est-ce que Rabbi Yonatan Eibeshitz, il explique là-bas la Gemara qu'on a ramenée ici avec David Ameler? Comment il explique? Il dit, en quoi c'était plus intéressant, entre guillemets, plus mieux pour David soit Avshalom et que ça soit pas un Eved ou un Mamzer. Il dit par nature, bon, on a vu que le Marchel explique que c'était Avshalom, il a pas fait ça, mais malgré tout, par nature, normalement, le normal, c'est qu'un fils n'a pas de. Il va pas, comment dire, se comporter de façon aussi cruelle avec son père qu'un Eved ou qu'un Mamzer. Donc lorsque David Ameler, il a vu que Hachem, il a envoyé pour payer son chov, comment on dit son chov en français? Sa dette, il a envoyé son fils, alors ça l'a rassuré. Pourquoi ça l'a rassuré? Il dit à Kadosh Baruch Hu, dans le monde, il a deux anagas, deux, comment on dit anagas, conduites. Il y a ce qu'on appelle la midat ad-din et la midat ad-rahamin. La midat ad-din, c'est quoi? L'attribut de rigueur. La rigueur, c'est quoi la rigueur? Elohim, c'est quoi? C'est la valeur numérique de Teva, la nature. La nature, par nature, elle est cruelle. La nature, elle, c'est un comportement qui est sec, qui est cruel. C'est quoi le comportement naturel? C'est, t'es dans la jungle, d'accord? Tu peux être le petit pas de jungle dans la forêt, le petit cerf, le petit Bambi, le plus mignon du monde, avec les petits yeux comme ça, qui fait comme ça. Si le lion, il a faim, eh ben, il saute de suite, il mange. Oui, mais regarde comment je suis mignon, moi. À l'affaire, j'ai faim. La nature, c'est cruel. Il n'y a pas de miséricorde dans la nature. La nature, elle est sans pitié. Dans la nature, si tu as un bon travail, tu as de l'argent, tu ne réussis pas. D'accord? Si tu n'as pas d'argent et tu n'as pas de diplôme, et tu rateras. Ça, c'est la nature. La miséricorde, c'est pas comme ça. Miséricorde, quand je vois où il dirige le monde, de façon différente, de façon au-dessus de la nature. Il y a des règles dans la nature, mais il n'y a pas de règles dans la miséricorde. Des fois, tu vas voir des choses qui sont... Comment celui-là il a réussi? Pourquoi il a réussi celui-là plus qu'un autre? Il dit ici, il y a une naga spéciale. Hachem, il a une conduite spéciale avec celui-là. Pourquoi? Miséricorde. Je me roule les miséricordieux avec lui. D'accord? Donc il y a ces deux comportements. Maintenant, quand est-ce que je sais que c'est la nature qui m'attaque où c'est pas la nature, c'est autre chose, c'est un comportement plus divin, plus... Quand ce qui vient contre moi, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou quelque chose de surnaturel? Alors lorsque David Améler, il s'est dit, si c'était un Eved, si c'est un Eved ou un Mamzer qui veut me tuer, c'est quelque chose de naturel. Un Eved, il est cruel, il est bestial, il est méchant, qui veuille me tuer, je comprends, c'est un truc naturel. Mais lorsqu'il a vu que c'était son fils, il a dit, c'est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal ici, c'est pas un comportement normal, c'est pas un comportement naturel. Oui ou non? Donc comme ça, Rabbi Yonatan Haïbeshitz, il explique cette Gemara. Revenons à Rabbi Yochanan ben Zakkai. D'accord? Donc à l'origine, tout ce qu'on a parlé ici, c'était pour comprendre ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dit, pourquoi Shechem? Il dit, lorsque vous verrez, vous, Am Israël, que celui qui va vous attaquer, vous allez être frappé, pas de façon naturelle, mais de façon surnaturelle, d'accord, de tomber, d'arriver à un niveau aussi bas, vous rendez compte que la femme, la fille d'un des hommes les plus riches de Jérusalem, elle en vient à manger les grains d'orge dans les bouches de vache. Vous rendez compte cette bassesse, comment elle est tombée bas. Là, de là, il a vu que ce n'était pas une anaga, ce n'était pas une conduite naturelle. C'était une conduite qui était surnaturelle. Et donc, le Rav, il nous dit comme ça. Et c'est un résumé parce qu'il par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé tout au long de l'histoire du Ham Israël. On voit que le Ham Israël, il a été attaqué, il a été brûlé, il a été massacré, il a été... Combien on a poursuivi, on a fait du mal au Ham Israël. Mais si on veut remarquer, on veut trouver une distinctive dans toute l'histoire, on s'aperçoit que le juif a toujours été poursuivi de façon surnaturelle, de façon illogique. Qu'est-ce que les nations du monde nous reprochent exactement? Qu'est-ce qui ne plaît pas chez nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi vous nous haïssez autant? Pourquoi vous... Autant de matière grise pendant toute l'histoire à réfléchir comment tuer, massacrer le juif. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc le Rav ici nous dit, lorsqu'on comprend ça, on comprend que le comportement des nations du monde envers nous n'est pas un comportement logique, n'est pas un comportement naturel, on comprend ici que c'est pas la nature qui nous frappe. On n'est pas sous le joug de la nature, on est sous le joug d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem en personne qui vient nous réveiller, qui vient nous punir. Tous les coups qu'on voit, tous les coups qu'on reçoit, on les reçoit de qui? On les reçoit d'Hachem directement. C'est quoi la différence? C'est lorsqu'un homme, un roi, il veut punir son fils, il y a deux façons de le punir. Ou bien il va venir lui le punir, ou bien il va envoyer son bourreau le punir. Qu'est-ce que le fils il préfère? Qu'est-ce qu'il ferait? Pourquoi il préfère le père? C'est parce que le père, il me connaît, il fera attention à moi, il me frappera pas jusqu'au bout. Donc tant que je suis sous le joug de mon père, alors ça va encore. Mais lorsque c'est qui m'envoie, c'est qui? C'est un bourreau qui vient me taper. Oh là là, c'est qui le bourreau ici par rapport à ce qu'on a dit? C'est la nature. Si on vient de vous faire la guerre de façon naturelle, on dit oh là là, là c'est foutu. Ça c'est le bourreau, il a pas de pitié, lui il a rien à faire, lui il est payé pour faire un travail et il le fera. Il fera pas attention si c'est 100 coups, 200 coups qu'il doit mettre. Mon père lui il fera attention. Donc lorsque on voit que celui qui nous envoie, tout ce qui nous envoie, c'est hors nature, on comprend que c'est Kadosh Baruch Hu. Combien de missiles sont tombés en Israël pendant ces... Peut-être on ne dit pas, ils ne disent pas à la télé, à la radio en France, mais c'est des milliers, je crois qu'il y a plus de 2000 missiles qui sont... 2250, je crois que j'ai lu dans le journal ce matin. 2250 missiles qui sont tombés ici. Il y a des missiles, il n'y a pas eu, ou il y a eu un ou deux morts. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ils disent qu'il n'y a pas de Barzel. Ça aussi, le Rav Eliyahu Lopiani parle. Ça, il faut parler. C'est un point très important. Viens voir les miracles. 2250 missiles qui tombent, et Baruch Hashem, il n'y a pratiquement rien qui est arrivé. Même des bâtiments, ils n'ont pas été cassés. D'accord, les soldats racontent. D'accord, on ne le laisse pas tellement raconter, mais il y a quelques Yetziot, ces petits, ils racontent là-bas qu'ils sont arrivés, ils ont vu des choses extraordinaires. D'accord, il y a un des Aishiva ici, son beau-frère, il a reçu un missile à 50 cm, tout ça, un mètre de lui, Baruch Hashem. Des missiles, des miracles extraordinaires. D'accord, on voit des miracles, il y a des choses miraculeuses. C'est pas lié avec le cours. Mais là-bas, les soldats, ils racontent que quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, ils ont vu le Hamas s'entretuer entre eux, des enfants, des trucs se balancer, des bombes entre eux, de prendre des gosses comme ça, un gosse dans une main, une mitraillette dans l'autre. D'accord? Donc on se bat avec des gens comme ça, c'est pas naturel, tu peux pas avec quelqu'un de normal ici, tu peux pas avec quelqu'un de pas normal, c'est pas normal ici ce qui se passe. En tout cas, tout ça, Kadosh Baruch Hu, il veut nous montrer que c'est lui qui vient, c'est lui qui est ici, c'est toute cette anaga là, ça, Kadosh Baruch Hu. Juste par rapport aussi, ce qu'il ramène, ici il ramène deux marassés, le Rav Eliyahu Lopiani, c'est terrible ce qu'il raconte. Il raconte, là-bas, la Gemara dans Gittin, il y avait l'histoire de Bétard. Vous connaissez l'histoire de Bétard? sais pas l'histoire de Bétard. Non, sans rentrer dans tous les détails, il y avait un qui s'appelait Bardaroma. Bardaroma, c'était un gibor, c'était un type très très balèze, très très fort. Et lui, il a fait la guerre contre le César. Et César, il était en panique contre cet homme-là. Un homme, il était capable de faire des massacres dans ses légions. Et qu'est-ce qu'il a fait, César? Il a prié Hachem, il a dit Hachem, pitié de moi, comment est-ce que je vais faire contre cet homme-là? Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il a fait Bardaroma, lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hachem, toi, tu te mets de côté, tu nous laisses, nous, on va se. Je vais régler l'histoire au César. Et qu'est-ce qui va se passer? L'histoire est plus longue, mais je vous l'ai fait courte. Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va se faire déchirer celui-là? Il va aller aux toilettes. Et il y a un serpent qui va venir, qui va le piquer, qui va le tuer. Donc il va mourir de façon très très chevelée. Et lorsque César, il va en voir qu'on lui a fait un miracle, qu'est-ce qu'il va dire? Du fait que Hachem m'a fait un miracle, alors allez, je les laisse tranquilles, les gens bêtards, je vais pas faire la guerre contre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens bêtards, quand ils ont vu que César il partait? Ils ont commencé à la faire, ouais, on est plus forts, c'est nous les plus forts. Et là, César, il a vu qu'il faisait la fête, il dit, ah, ils se foutent de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, il les a tous massacrés. Et le Rav, il dit que Hachem, il te fait des miracles. D'accord? Il attend quoi que je vous raconte, il fait des miracles? Il attend quoi? Il attend que tu le reconnaisses. Il y a une grande avéra, messieurs. C'est quoi la grande avéra? Une des plus grandes avéra de la Torah, on peut dire comme ça. C'est de dire, c'est pas de pas croire. C'est qu'il y a une phrase qui est terrible. La phrase s'appelle Kochi Votsem Yadi. De croire que toute la réussite que j'ai, d'accord, elle est due à quoi? Elle est due à ma force. C'est parce que je suis fort, c'est parce que je suis intelligent, c'est grâce à ça que je réussis. Et ça, c'est un truc qu'on voit de Tsukim, on voit de Khazal, quand je me il déteste. Dis-moi, je te fais des miracles, et maintenant tu vas t'orgueillir, tu vas dire que c'est toi le plus fort, c'est toi le plus beau. Là-bas, on raconte, vous savez qu'à l'époque du Moyen-Âge, il y a eu une épée de peste, la grande peste, non, je sais plus comment elle s'appelle cette peste. Il y a, en Europe, vous avez entendu parler de ça? Il y avait un bateau qui est en Italie avec des rats, tout ça, les rats ils sont sortis, et ils ont fait une peste, quoi. Il y avait 240 millions d'habitants en Europe, 80 millions sont morts. Un tiers de l'humanité, un tiers de l'Europe est mort à cette époque-là. D'accord, les seuls qui n'ont pas été touchés, c'est qui? C'est les Juifs. Il n'y a pas un Juif qui est mort.
Avec l'initiative.
Miracle extraordinaire, il n'y a pas un qui est mort. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire là-bas? Là-bas, le Rav, il ramène, c'est pas moi qui ramène ça, c'est lui, le Rav qui ramène. Il dit oui, parce que nous, on est des gens propres, eux, ces gens-là, ils se lavent pas les mains avant de manger, ils se lavent pas leur maison. C'est vrai, en vérité, nous, on faisait les tiatiadaïm avant de manger. Là-bas, l'épidémie, elle venait par l'ergot de seigle. D'accord, ce qu'ils mangeaient, c'était sale. Donc comme ils se lavaient les mains, les Juifs, avant de manger, ils n'étaient pas touchés de ça. Les morts, vous savez qu'un mort, on ne doit pas laisser un mort dans une maison, on laisse un mort quelque part. Tout de suite, on l'a enterré. Là-bas, en Europe, des fois, ils laissaient les morts pendant une semaine avec les bougies autour, ils laissaient comme ça le cadavre se putrifier. C'était pas tellement barré. Et les Juifs, tout de suite, enterrés. Les poubelles aussi, on n'a pas le droit de garder une poubelle chez soi. Ou quelque chose qui sent mauvais, pourquoi on ne peut pas prier à côté? Ou faire les besoins. Là-bas, où est-ce qu'ils faisaient leurs besoins, les gens? Ils faisaient leurs besoins, je ne sais pas où ils faisaient, mais pas de façon très très propre. Et le Juif, non, il doit faire les besoins à l'extérieur de la maison. Donc on voit que le Juif était, au niveau hygiénique, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus propre, en comparaison avec les nations d'époque. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, parce que nous, on est des gens plus propres, c'est pour ça qu'on n'a pas été touchés. Et là-bas, le Rav, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bon, c'est un grand personnage qui le dit, donc on s'appuie sur lui. Je lui dis, le fait qu'ils n'ont pas remercié Hachem, ils n'ont pas reconnu le miracle ici, de dire que c'est Akash Bokhou, c'est le Tzrout qui nous a sauvés. Et là, ils ont fait ça dépendre des choses, par des choses naturelles, alors c'est la nature qui les a punis. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les nations du monde? Ah, vous savez ce qui s'est passé? C'est les Juifs. C'est les Juifs qui ont fait ça. Pourquoi? Preuve en est, il n'y a pas eu un mort chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empoisonné nos puits et... À cause de ça, on est tombé malade. Et là-bas, à cette époque-là, il y a eu des pogroms terribles, il y a eu des milliers de Juifs qui se sont fait brûler à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts de la peste, mais ils sont morts des nations du monde. En tout cas, il dit, s'il y a une chose qu'on doit bien aujourd'hui dire, c'est pas Kippat Barzel, on doit remercier Hachem qui a donné la sagesse à des hommes de construire un appareil aussi extraordinaire qui nous protège. D'accord? Mais on doit avoir cette reconnaissance. C'est Nachon qui a une ishtadlout, comment on dit ishtadlout en français? Une ishtadlout, il y a un effort ici, on doit faire tout ce qu'on pourrait pour se sauver. Aval, on ne doit pas obliger, que tous ces miracles, c'est que je vois qu'il les fait. Parce que cet appareil-là qui marche, ou cette guerre-là, elle est venue au moment où on a cet appareil-là, c'est extraordinaire. Parce que si eux, ils avaient commencé à balancer leur miracle il y a 3-4 ans en arrière, leur roquette 3-4 ans avant, quelle tête on aurait aujourd'hui? On n'aurait pas eu cet appareil-là. Donc en réalité, quand Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous, il nous a apporté d'abord le médicament avant de nous apporter le maka. Et sur soi, on doit aller au-delà de Akadosh Baruch Hu. On doit arrêter de croire que c'est notre force et que c'est notre intelligence qui règne ici. C'est Hachem, c'est que des miracles, que des miracles. Juste pour finir, on raconte comme ça, hein, c'est très, une histoire très connue, hein, qu'il y a une école militaire aux États-Unis où là-bas on enseigne l'art de la guerre. D'accord ? Là-bas, il y avait un soldat, un juif qui est parti étudier la guerre là-bas. Comment on fait la guerre ? On entend les batailles, tout ça. Et on lui raconte la bataille de Waterloo, la bataille de ça, la bataille de ça, la bataille de ça. À la fin, il voit le bonhomme qui dit hey, les batailles d'Israël, t'en parles pas, la guerre des six jours, la guerre de Kippour. Il a dit non, j'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à apprendre de ces guerres-là. Pourquoi il n'y a rien à apprendre de ces guerres-là ? Il n'y a rien de naturel là-bas. Il n'y a rien de naturel, il n'y a aucune technique, il n'y a aucune. Là-bas, c'est que des miracles depuis jusqu'à la fin. Donc pour finir, monsieur, et c'est ça la naga qu'on doit avoir, remercier Akadosh Baruch Hu de tous les miracles qu'il nous a fait. Et tant qu'on le remerciera, alors tant que ce sera lui qui viendra et qui nous. Qui nous bénira et qui gérera la situation et qui ne nous donnera pas dans les mains de la nature. Hachem Yébézrenou.